On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les beaux et tous les bandits, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Avec les saints et les assassins, les femmes du monde et puis les putains, on ira tous au paradis. Ne crois pas ce que les gens disent. C'est ton cœur qui est la seule église. Laisse un peu de vague à ton âme. N'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira. Qu'on ait fait le bien ou bien le mal, on sera tous invités au bal. On ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira. Avec les chrétiens, avec les païens, et même les chiens, et même les requins, on ira tous au paradis. Vous êtes peut-être comme moi, vous connaissiez cette chanson de Michel Polnareff, mais vous n'en aviez jamais vraiment écouté toutes les paroles. En tout cas, c'est mon cas, j'ai découvert des choses. Des paroles qui, sans ambiguïté aucune, affirment que tout le monde ira au paradis. Quelle que soit la vie menée ici-bas, quelle que soit la croyance de chacun, on ira tous au paradis. Dans la série en cours sur les grandes questions posées à la foi chrétienne, nous nous intéressons donc ce matin à la question du paradis, à la question de la vie après la mort. Irons-nous tous ou pas au paradis après notre mort? Notre question se découpe à minima en deux autres questions. Le paradis existe-t-il? Et s'il existe, qui s'y rendra? On peut s'interroger ici avec les mots de la chanson de Polnareff. Est-ce que la vie vécue ici-bas n'a vraiment pas de poids sur cette question du paradis? Est-ce qu'il ne faut vraiment faire aucune distinction entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas? Entre les chrétiens et les païens? Entre les saints et les assassins? Etc. Et puis, il faut ajouter une troisième question qui découle des deux premières. Qu'en est-il de l'enfer? L'enfer existe-t-il? En effet, parler du paradis, c'est nécessairement parler de l'enfer. Faut-il le craindre? On va quand même investir dans une autre télécommande un de ces jours. Parce que quand ça ne veut pas. Ah, merci. Ou bien alors, comme le dit Polnareff, ne pas avoir peur de la couleur des flammes de l'enfer. Comme dans les questionnements précédents, notre réflexion ce matin va s'appuyer sur des présupposés que je ne vais pas développer, dont un nouveau, entre guillemets, à savoir la Bible dit la vérité. J'aborderai une fois cette question directement, mais ce matin nous assumons que la Bible dit la vérité. Ce qui nous amène à la problématique suivante. La Bible affirme que le paradis et l'enfer existent. Elle affirme que Dieu est amour. Et elle affirme aussi que Jésus est le seul chemin pour aller au paradis. Comment donc un Dieu d'amour peut-il être si restrictif et envoyer des gens en enfer? Si je lis correctement la Bible, on n'ira pas tous au paradis. Ces affirmations bibliques amènent beaucoup de nos contemporains à penser que la Bible et Dieu sont intolérants et ou que l'enfer n'est qu'un mythe, quelque chose de l'ordre de la superstition, une invention pour faire peur, une invention pour garder les fidèles dans la crainte, dans la soumission. Oui, notre monde, dans une très vaste majorité, et même parmi les chrétiens, nie la réalité de l'enfer. Et ainsi se pose la question, irons-nous tous ou pas au paradis? Et puis, peut-on encore parler aujourd'hui de châtiment éternel? Peut-on encore parler aujourd'hui de peines éternelles? Pour commencer à répondre à notre question, je vous propose dans un deuxième point de considérer tout d'abord quelques alternatives au message biblique tel que nous le comprenons sur le paradis et l'enfer. Et la première de ces alternatives, c'est l'universalisme. Qu'est-ce que c'est ? L'universalisme, c'est simplement la croyance qu'au final, Dieu sauvera tout le monde. Je résume, hein, je simplifie peut-être un peu, mais c'est ça. Au final, tout le monde sera sauvé. C'est donc la croyance que l'enfer n'existe pas. C'est la chanson de Polnareff. La croyance dans un salut universel existe sous différentes formes. Et ainsi, par exemple, certains affirment qu'il n'y aura pas de jugement à la fin des temps. Au nom de l'amour de Dieu, au nom de la notion d'amour, on évacue l'idée d'un jugement. Mais que vaut un Dieu bon s'il est injuste, s'il ne fait pas justice? D'autres avancent l'idée qu'il y a une deuxième chance après la mort. C'est le cas, par exemple, des Mormons, de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui pratiquent le baptême par procuration pour les morts. Vous ne le saviez peut-être pas, ou vous le saviez, et ils pratiquent ce baptême par procuration pour les morts pour obtenir leur salut. Et voilà ce qu'on peut lire sur le site de cette Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, l'Église mormone donc. Jésus-Christ a enseigné que le baptême est essentiel au salut de toutes les personnes qui ont vécu sur la terre. Cependant, beaucoup de gens sont morts sans avoir été baptisés. D'autres ont été baptisés sans l'autorité appropriée. Parce qu'il est miséricordieux, Dieu a préparé un moyen pour que tous reçoivent les bénédictions du baptême, en accomplissant des baptêmes par procuration en faveur des personnes qui sont mortes. Les membres de l'Église offrent ces bénédictions à leurs ancêtres décédés. Ces personnes peuvent alors choisir d'accepter ou de rejeter ce qui a été accompli en leur faveur. Et cette doctrine de l'Église mormone se base sur une révélation qu'aurait reçue le fondateur, Joseph Smith. Toujours au chapitre des deuxièmes chances ou de la deuxième chance, on peut aussi citer les services divins en faveur des défunts, qui sont cette fois-ci pratiqués par l'Église néo-apostolique. Et voilà ce qu'on peut lire sur leur site. Trois fois l'an, le premier dimanche des mois de mars, il se trouve que c'est aujourd'hui, juillet et novembre, ont lieu des services divins en faveur des défunts. Dans leur perspective, les chrétiens néo-apostoliques prient pour les défunts qui n'ont pas été rédimés, c'est-à-dire rachetés, sauvés, afin qu'ils aient accès au salut en Christ. Et on peut juste compléter en disant que cette annonce du salut, concrètement, elle se fait dans l'au-delà par les apôtres de cette Église qui sont décédés. Alors, les apôtres, ce n'est pas juste les 12 qu'on connaît dans la Bible, mais des apôtres, il y en a beaucoup actuellement il y en a plus de 300 dans ce mouvement. Pour terminer avec ce point sur l'universalisme, j'aimerais simplement dire un mot sur les textes bibliques qui existent et qui semblent aller dans ce sens de l'universalisme. Ainsi, l'apôtre Paul, dans Romains 5, verset 18, affirme que la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, dit-il. Romains 11, verset 32, que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ou encore 1 Corinthiens 15, verset 22, que tous revivront en Christ. Et puis Paul enseigne dans Colossiens 1, verset 20, que le Christ a réalisé le projet divin de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et on pourrait encore citer d'autres textes, Philippiens 2, 10, 2 Corinthiens 5, 19, et puis en dehors des écrits de l'apôtre Paul, il y a aussi des textes de Jean et de Pierre. Alors, c'est un sujet en soi, et il serait bien trop long de passer tous ces textes en revue. Je cite juste pour clore ce point, ce qu'Henri Blocher dit de tous ces textes qu'il aborde dans un article, et voilà ce qu'il dit. Si l'on tient compte du contexte, aucun des textes allégués ne parle de la totalité quantitative de tous les individus, sauf Philippiens 2 et Colossiens 1, mais dans ces deux passages, il ne s'agit pas de l'attribution du salut. C'est un peu lapidaire hein, comme traitement, mais voilà, je voulais quand même mentionner qu'il y a ces textes qui font débat, mais qu'en regardant à leur contexte, on arrive à la conclusion qu'il n'est pas question ici de totalité quantitative de tous les individus et de l'attribution du salut. Il n'y a donc pas dans la Bible de textes qui soutiennent cette doctrine du salut universel ou de l'universalisme. Après l'alternative de l'universalisme, il faut parler de celle de l'annihilationnisme. Eh oui, c'est que des mots simples. Hein, on aimerait bien qu'ils nous fassent des mots à deux syllabes, hein, mais là, c'est... Voilà. L'annihilationnisme, c'est la croyance selon laquelle les incroyants n'iront pas en enfer souffrir pour l'éternité, mais bien plutôt seront anéantis après leur mort, annihilés, anéantis après leur mort. Ainsi, la mort, pour les incroyants, c'est l'anéantissement, c'est la non-existence. On cesse d'exister. Et cette idée, comme vous pouvez vous en douter, séduit beaucoup de gens, parce qu'elle évacue complètement l'horreur que suscite l'idée d'un enfer éternel. Et on peut noter qu'il y a ici des variantes de cette compréhension. Soit elle concerne tous les êtres humains, et donc ça signifie qu'il n'y a pas de vie après la mort, et que donc il n'y a ni enfer ni paradis. Soit alors elle concerne uniquement les incroyants. Il y a donc une vie après la mort, mais il n'y a pas d'enfer, puisque les incroyants sont annihilés. Et il se trouve que parmi les mouvements qui croient dans l'annihilation, il y a les témoins de Jéhovah qui affirment que l'enfer n'existe pas et qu'après la résurrection des morts, les incroyants seront anéantis. Ils n'existeront plus. Et on peut lire sur leur site que personne ne souffrira en enfer, disent-ils, car c'est une idée répugnante pour Dieu. Personne ne souffrira en enfer. C'est une idée répugnante pour Dieu. Passons au troisième point. Après avoir considéré ces quelques alternatives, je vous propose de passer en revue maintenant de manière succincte, rassurez-vous, ce que la Bible dit sur le péché, sur le salut, sur la mort, sur le jugement et sur la vie après la mort. C'est pour ça que ça sera condensé, parce qu'il y a matière. Tout d'abord, le péché. Que dit la Bible ? Elle affirme que nos premiers parents, Adam et Ève, ont volontairement désobéi à Dieu, qu'ils sont devenus pécheurs et qu'ils ont fait entrer le péché et la mort dans le monde, qu'ils se sont ainsi mis sous la condamnation et le jugement de Dieu, qui les a chassés du jardin d'Éden, du jardin des délices, du paradis. Et qu'en tant que pécheur, l'être humain est séparé de Dieu, comme le dit par exemple ce texte d'Ésaïe 59, « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. » Ou alors le verset bien connu de Romains 3, 23, « Car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est pour le péché. Maintenant, le salut. Que dit la Bible ? Elle affirme qu'à cause de son péché, l'homme est coupé de Dieu et qu'il est sans aucune possibilité de rétablir la communion avec Dieu par lui-même. Que Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils Jésus pour offrir gratuitement à l'homme une solution, le salut, en prenant sur lui notre condamnation, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Elle affirme que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, comme il le dit lui-même dans Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a donc, comme le dit l'apôtre Pierre dans Actes 4, 12, en parlant de Jésus, « aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Elle affirme encore que tout a été accompli, payé pour notre salut, et que celui-ci est offert gratuitement à quiconque croit en Jésus et se repent de ses péchés. Elle affirme encore que si la foi en Jésus nous fait accéder au salut, le refus du Christ entraîne la perdition. Comme le dit Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Elle affirme enfin qu'il y a seulement deux chemins, comme le dit Matthieu 7, 13 et 14, « Un chemin étroit, celui de la foi en Christ qui mène à la vie, et un chemin large, celui du refus du Christ qui mène à la perdition. » Que dit la Bible sur la mort ? Elle dit que le salaire du péché, c'est la mort, et elle dit qu'il est réservé à chaque homme, à l'homme, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Passons au jugement. Que dit la Bible ? Elle affirme que Dieu a réservé un temps pour cela, qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, acte 17, versets 30 et 31, que nous devrons tous rendre des comptes à Dieu pour nous-mêmes, Romains 14, 12, que nul ne pourra se soustraire à ce jugement, que Dieu est un juste juge, Apocalypse 16, 7, et que ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie hériteront la vie éternelle, et que les autres seront jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 20, verset 15. Et enfin, concernant la vie après la mort, le paradis et l'enfer, la Bible affirme que les deux existent, que les deux sont une expérience consciente qui durera l'éternité, que le paradis est le lieu de la félicité éternelle dans la présence de Dieu, et que l'enfer est le lieu des ténèbres, de la perdition, du châtiment et des remords éternels. Que dit la Bible sur le péché, sur le salut, sur la mort, sur le jugement et sur la vie après la mort ? Elle affirme qu'on n'ira pas tous au paradis. Elle affirme que notre destinée éternelle dépend de ce que nous aurons fait du Christ pendant notre vie ici-bas. J'aimerais maintenant, dans un quatrième point, avant de conclure, aborder quelques questions difficiles, soulevées par tout ce que nous venons de dire. Et la première de ces questions difficiles concerne la bonté de Dieu et l'enfer. Si Dieu est bon, si Dieu est amour, pourquoi l'enfer ? En effet, les peines éternelles paraissent de prime abord complètement incompatibles avec la notion d'un Dieu d'amour. Et c'est par exemple ce qu'affirment, on l'a déjà abordé, les témoins de Jéhovah, par exemple. Alors qu'en est-il ? S'il est important de réfléchir à l'articulation entre l'amour de Dieu et l'enfer, il ne faut pas oublier dans cette équation d'inclure la notion de justice. Oui, Dieu est amour, mais il est aussi juste, et sa justice demande que le péché soit puni. C'est pourquoi Dieu, qui est à la fois amour et juste, Dieu qui désire que tous les hommes soient sauvés, a envoyé son Fils unique pour prendre à notre place la juste condamnation que nous méritions pour nos fautes. Ainsi, en donnant Jésus pour mourir à la place des pécheurs, Dieu a satisfait à la fois à sa justice et à son amour. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que Dieu n'envoie personne en enfer. L'offre du salut est gratuitement offerte à quiconque. Dans le verset bien connu de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le choix de chacun au sujet de Jésus qui est déterminant pour l'éternité. Comme le dit Jésus dans un autre texte de l'Évangile de Jean, chapitre 12, « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au jugement au dernier jour. » En fait, nous constatons que Dieu respecte le choix de chacun. Il a fait le nécessaire pour offrir le salut à quiconque croit, mais il appartient à chacun de choisir pour lui-même. Et celui qui rejette le Christ se condamne lui-même. Non, Dieu n'envoie personne en enfer. Le châtiment éternel est la juste punition pour celles et ceux qui auront refusé la main tendue de Dieu, celles et ceux qui auront rejeté son amour, car Dieu est bien amour. S'il ne l'était pas, il n'aurait pas sacrifié son Fils pour nous sauver de l'enfer. La deuxième question difficile concerne l'étroitesse des possibilités. Pourquoi seulement deux catégories ? Pourquoi les sauvés d'un côté et les perdus de l'autre ? N'est-ce pas trop réducteur ? Est-ce que ça ne manque pas un peu de nuance, tout ça ? À ce sujet, je cite Lydia Yeager qui écrit ceci dans le livre « Une foi des arguments, une apologétique pour tous ». Ce n'est que dans les mauvais films que les bons sont entièrement innocents et que les méchants complètement corrompus. Dans la vraie vie, les humains sont animés à la fois par des motifs nobles et par des penchants pernicieux. Même si Dieu sonde parfaitement les cœurs, ce qui nous est impossible, comment un état final peint en noir et blanc, damnation et salut, pourrait-il rendre justice à cette complexité? Et en fait, il faut nuancer ce constat en noir et blanc, parce que le texte biblique est plus nuancé que ça. En effet, pour les rachetés comme pour les perdus, il y a des nuances. Ainsi, des récompenses sont promises aux chrétiens en fonction de leur fidélité au service. Et de même, les peines éternelles sont en fonction des œuvres commises par le pécheur et du degré des lumières reçues. Alors oui, il n'y a que deux catégories. On ne peut être que sauvé ou perdu, jamais un peu des deux à la fois. On croit en Jésus ou on n'y croit pas. Par contre, pour les rachetés comme pour les perdus, il y aura des nuances qui correspondent à la vie vécue et qui traduiront le juste jugement de Dieu. Chacun recevra ce qu'il mérite. Troisième question difficile concerne l'affirmation du chemin unique. Pourquoi un seul chemin pour le salut? Qu'en est-il des autres religions? Premièrement, il n'y a qu'un seul chemin parce que Dieu l'a voulu, et c'est sa prérogative. Deuxièmement, si l'homme pécheur ne pouvait pas régler le problème de son péché par lui-même, et que Dieu l'a fait en envoyant Jésus, il ne peut pas y avoir d'autre chemin, c'est-à-dire d'autres moyens d'accéder au salut. Ceci dit, affirmer que Jésus est le seul chemin, comme la Bible l'affirme, ce n'est pas dire qu'il n'y a rien de décent et d'honorable dans les autres religions, par exemple, ou chez les personnes d'une autre religion. La révélation générale, la grâce commune de Dieu pour tous les hommes, et ce qui reste de l'image de Dieu dans chaque être humain, font que des hommes et des femmes d'autres religions, d'autres confessions, peuvent être charitables, honnêtes et bons. Ces choses ne sont pas l'apanage des chrétiens. Dire que Jésus est le seul chemin ne veut pas dire que rien de bon n'existe en dehors de l'Évangile. Il y a des parcelles de vérité et de beauté dans les autres religions, mais elles ne font pas de ces autres religions des voies de salut. Pour ce qui est du salut, la Bible est formelle. Jésus est le seul chemin. Il est le seul qui nous offre ce que nous ne pouvions pas atteindre par nous-mêmes. Et on peut noter ici que toutes les religions, toutes, à part le christianisme, fonctionnent sur le principe des mérites. C'est ce que l'homme fait ou ce qu'il ne fait pas qui est déterminant. Or, nous l'avons vu, l'homme est pécheur et ne peut pas gagner Dieu par lui-même, par ses propres efforts. Mais la bonne nouvelle du salut, c'est que Jésus a fait à notre place ce que nous étions incapables de faire pour nous sauver, et il nous l'offre gratuitement. C'est la grâce merveilleuse de Dieu. Et il fallait les mérites parfaits du Christ, qui lui seul est le seul chemin vers Dieu son Père. On n'a pas tout à fait fini avec les questions difficiles. Et la quatrième question difficile concerne celles et ceux qui n'ont jamais ou qui n'auront jamais entendu parler de Jésus. Comment pourraient-ils être sauvés puisque Jésus est le seul chemin? Question difficile. Il existe essentiellement trois réponses possibles à cette question. La première dit qu'ils ne seront pas sauvés. Ils ne seront pas sauvés puisqu'il faut une foi explicite en Jésus pour être sauvé. Il faut croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. La deuxième compréhension, c'est qu'on ne peut rien dire sur le sujet. Alors c'est un peu la logique de l'agnosticisme. C'est une position de prudence. Il faut avouer notre ignorance sur le sujet et nous en remettre à la compassion et à la juste justice de Dieu. C'est la deuxième réponse que l'on peut apporter à cette question. Et puis la troisième réponse ou la troisième compréhension est un peu plus ouverte. Elle dit qu'il n'est pas exclu, je vais le dire doucement, il n'est pas exclu que l'on puisse avoir une foi correctement orientée vers le Christ en l'absence d'une connaissance explicite de sa personne et de son œuvre. Il n'est pas exclu que l'on puisse avoir une foi correctement orientée vers le Christ en l'absence d'une connaissance explicite de sa personne et de son œuvre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je cite un peu en longueur, parce que ça mérite quand même quelques explications. Alain Isus, dans le livre « Pour une foi réfléchie », voilà ce qu'il dit. L'argument fort des tenants de cette position, c'est le cas des croyants de l'Ancien Testament. Ils sont eux aussi justifiés par la foi. Leurs péchés ont été pardonnés à cause du sacrifice de Jésus-Christ, appliqué par anticipation. Ils sont présentés aux chrétiens comme des modèles, voir l'exemple d'Abraham en Romains 4 ou la liste des héros de la foi en Hébreux 11. Or, à l'évidence, ils en savaient relativement peu à propos du Christ. Il suffit de penser à Melchisédek. Que savait-il vraiment de lui? Ainsi, on peut considérer qu'il en va de même pour ceux qui, depuis la venue du Christ, sont restés en dehors de la révélation spéciale. N'est-il pas possible que des hommes et des femmes, par l'action de l'Esprit-Saint, lisent correctement les indices que fournissent la révélation générale et la providence à propos du plan du salut divin? L'Esprit-Saint peut les amener à comprendre que si Dieu les maintient en vie et leur procure certains de ses bienfaits en dépit de leurs péchés, c'est qu'il a pourvu à leur salut, qu'il a réglé la question de leur faute. Ainsi, ils peuvent faire un acte de foi et s'en remettre à sa grâce pour leur salut. Leur foi est alors correctement orientée vers le Christ, malgré le peu d'informations qu'ils possèdent. Ils sont eux aussi sauvés par le sacrifice de Jésus, comme les croyants de l'ancienne alliance. Notons que cette compréhension des choses tient compte du fait que Dieu est souverain et qu'il est bien évidemment libre de recourir à des voies extraordinaires. Et puis, quoi qu'il en soit, devant cette question difficile, nous devons nous rappeler que Dieu est juste et que ses jugements seront justes, quoi qu'il arrive. Chacun sera jugé avec justice en fonction des lumières qu'il a reçues. Il reste une dernière question difficile, peut-être la plus difficile, et ensuite je conclus. Comment être heureux au ciel alors que des gens que j'aime seront en enfer? La Bible dit que quand Jésus reviendra, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Cette soumission et cette confession seront volontaires. Pourquoi? Parce que la seigneurie de Jésus sera alors une évidence pour tous. Alors précisément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun, les rachetés et les perdus, chacun reconnaîtra que les voies de Dieu sont justes et parfaites. Cela veut dire que les perdus reconnaîtront que leur jugement est juste et mérité. Et cela veut dire que les rachetés aussi reconnaîtront que les jugements de Dieu sont justes. Cette compréhension de la justice parfaite de Dieu me semble être la seule explication possible au fait que les rachetés ne seront pas tristes du sort des perdus. Bien évidemment, nous parlons ici de choses qui nous dépassent, de choses insondables et qui restent pour l'heure attachées à ce mystère opaque du mal dont nous avons parlé dernièrement. Et il nous faut donc beaucoup d'humilité en parlant de ces choses et reconnaître que nous ne comprenons pas tout. Mais une des implications de ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y aura pas de révolte en enfer. Et il faut ici tordre le cou à ce cliché qui fait de l'enfer le lieu de la révolte éternelle. Non, il n'y aura plus de révolte. Il n'y aura plus de péché en enfer. Et non, le diable ne règnera pas en enfer. Il y sera condamné comme les siens, pour y être tourmenté, dit Apocalypse 20, verset 10, pour y être tourmenté au siècle des siècles. L'enfer, ce n'est pas le triomphe du mal à jamais, parce que le mal aura été détruit. L'enfer, c'est le lieu du châtiment éternel. Imaginez l'enfer comme le lieu de la débauche éternelle où les hommes continueraient à se rebeller, à suivre leur propre voie, à défier le Dieu vivant. Ce serait complètement édulcorer la victoire du Christ. Ça serait complètement la minimiser. Cette tolérance par Dieu d'une province révoltée, si on peut dire, signifierait que Dieu n'est pas souverain et que la victoire du Christ n'est pas totale et que le jugement dernier n'est finalement pas le dernier parce qu'il y aurait encore des péchés à juger et ce serait sans fin. En fait, quand la patience de Dieu arrivera à son terme, quand Jésus reviendra, ce qui correspond à la fin de la patience de Dieu, quand Dieu jugera les hommes, ce sera la fin de toute désobéissance, de toute révolte, de tout mal et de tout péché. Il est temps de conclure. Irons-nous tous au paradis ? Si je crois que la Bible dit vrai, alors je dois répondre non à cette question. Non, tous n'iront pas au paradis. Si je crois que la Bible dit vrai, alors je dois dire que Jésus est le seul chemin pour aller au paradis. Si je crois que la Bible dit vrai, alors je dois dire que l'enfer existe et qu'il est réservé pour celles et ceux qui rejettent ce chemin unique, qui rejettent le Christ. Si je crois que la Bible dit vrai, alors je dois dire qu'il appartient à chacun de se déterminer ici-bas. Et ce choix est toute proportion gardée, celui devant lequel Moïse a mis le peuple d'Israël avant d'entrer en Canaan, en tout cas dans son principe. Nous lisons dans Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. » choisit la vie afin que tu vives. Mettre sa confiance en Jésus, c'est choisir la vie et la vie pour l'éternité. Comme le dit Jésus dans Jean 3, 36, que j'ai déjà cité, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie. » Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cette décision à prendre est la plus importante. La plus importante de toute une vie. Il y a beaucoup de décisions importantes à prendre dans la vie, beaucoup. Mais la plus importante de toutes, c'est celle qui détermine de notre éternité. C'est le chemin sur lequel je choisis de marcher vers l'éternité. Large et facile sans Christ, il mène à la perdition. Étroit et difficile avec Christ, il mène au salut. Alors permettez-moi de vous demander, chers amis, sur quel chemin êtes-vous engagés ce matin? Si votre vie s'arrêtait là, maintenant, tout de suite, où iriez-vous? Où passeriez-vous l'éternité? J'aimerais terminer en soulignant une dernière chose. Si le choix est important pour chacun de nous, et il l'est, il l'est aussi pour les hommes et les femmes que nous côtoyons jour après jour. Des hommes et des femmes à qui Dieu nous appelle à témoigner de son amour. À qui Dieu nous appelle à parler de tout ce que nous avons dit ce matin. Alors je suis bien conscient que ce n'est pas tâche aisée. Je suis bien conscient que c'est parfois s'exposer à la moquerie, au rejet, mais c'est une preuve d'amour que de leur dire ces choses. N'oublions pas, je ne l'ai pas dit encore jusqu'ici, que celui qui parle le plus de l'enfer dans la Bible, c'est Jésus. Quasiment tous les textes qui en parlent, c'est Jésus qui les dit. Et pourquoi? Parce qu'il est celui qui a le plus aimé les pécheurs. Alors que Dieu nous accorde de comprendre la responsabilité qui est la nôtre si nous sommes son enfant, que Dieu nous pardonne nos lâchetés et nos faiblesses, nos manquements dans ce domaine, que Dieu nous renouvelle dans notre amour pour lui et aussi pour les autres qui se perdent sans Dieu, que Dieu délie nos langues pour qu'elles confessent sans honte et avec courage que Jésus est le seul chemin et que non, nous n'irons pas tous au paradis, à moins de mettre notre foi en Jésus. Amen.